Et pendant ce temps-là, vous avez... C'est une scène un peu particulière, on va le dire, là. La CAQ qui est dans les bas-fonds, rappelons que c'est 13 % la CAQ, 15 % le Parti conservateur. Donc, c'est vraiment dans les bas-fonds du classement. Mais vous avez quand même un ministre comme Jean Boulet qui performe, respecté de tous. Oui, oui, il y a le prêchi-prêcha des oppositions, là. Mais en général, je vous dirais que les gens sont pas mal en accord avec ces deux projets de loi sur les syndicats, dont celui dont on vient de parler avec Yves Lévesque sur les services essentiels. Mais sur les cotisations, vraiment aussi, je pense que ça fait presque l'unanimité dans le monde normal. La loi, on va l'appeler comme ça, la loi Roberge, tiens. La loi laïcité 2.0, où entre autres on veut bannir ou circonscrire la prière de rue, circonscrire le port du voile, les salles de prière dans les écoles. Je pense que les gens sont fortement en accord avec cette loi-là. Mais cette loi-là, et qui origine du rapport Pelchat-Rousseau, c'est le projet de loi 9. Et pour tenter de faire un suivi sur cette histoire-là de prière de rue, on va aller rejoindre l'un des co-auteurs, justement, qui est professeur de droit et qui va peut-être même enseigner aujourd'hui, qui est à l'Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau. Bonjour, Maître Rousseau, comment ça va?
Très bien, vous-même.
Très bien. Avez-vous des cours aujourd'hui?
Non, seulement demain.
OK, parfait. Vous enseignez quoi, sans indiscrétion?
Droit constitutionnel, donc avec le projet de loi de constitution en ce moment, les questions de droits et libertés autour de la laïcité, là, ça fait une belle cohérence.
Est-ce que vous trouvez justement qu'il y a une cohérence entre le projet de loi qui a été déposé et votre rapport?
Oui, il y a plusieurs éléments du rapport qui sont repris. Nous, on proposait d'appliquer les principes de la laïcité au CPE, aux garderies. On retrouve ça dans le projet de loi. On proposait d'élargir l'interdiction du visage couvert. C'est dans le rapport, un petit peu, c'est-à-dire c'est dans le projet de loi. Ça va un petit peu moins loin que le rapport, mais c'est là. Donc, il y a différents éléments dans ce sens-là. Des éléments qui vont pas dans ce sens-là, comme... Dans le projet de loi, là, on propose d'enlever la mention du droit à des services publics laïques dans la loi. Nous, le rapport n'allait pas dans ce sens-là. Donc, il y a des différences, mais globalement, ça va dans le même sens.
Sur la viande halal, par exemple, on a vu dans les informations qu'il y avait des CPE qui avaient mis ça mur à mur dans les menus. Tu sais, question de ne pas se casser la tête, pas se faire picosser et de ne pas passer aux nouvelles, finalement, sauf qu'ils ont passé aux nouvelles pareil. Le halal, le mur à mur, vous avez réfléchi de quelle manière dans votre rapport?
Ben nous, d'abord, on l'a documenté. Donc, ça nous a été confirmé de plusieurs sources que dans des CPE, il y avait effectivement là, 100% halal dans certains CPE. Donc, le premier élément du rapport, parce que c'est pas seulement un rapport de recommandation, c'est d'abord un rapport de bilan. Donc, on a parlé à beaucoup de gens. Fait que le premier élément, c'est de dire, OK, ça existe, qui n'était pas nécessairement connu de tous, là. Je pense que la première fois que ça a été dit publiquement, c'est dans le rapport. Après ça, d'autres médias ont parlé, ont découvert d'autres cas. Donc, la première chose, c'était de démontrer que ça existe, de le mentionner au gouvernement, d'en faire l'objet là, d'une discussion publique. Puis ensuite, effectivement, nous, on mentionnait que c'était problématique pour la liberté de conscience. C'est-à-dire, il peut y avoir des gens qui envoient leur enfant dans le CPE parce que c'est le plus proche de la maison, parce que c'est le seul où il y a une place de disponible. On choisit pas toujours avec les listes d'attente et tout. Et là, que ces gens-là soient obligés de consommer, de voir leur enfant consommer une nourriture qui est conforme à une religion. Puis s'il n'y a pas d'autre choix, ça nous semblait pas conforme à liberté de conscience. Donc, le projet de loi va dans le sens du rapport à cet égard-là, là, en disant que certains organismes ne doivent pas offrir exclusivement de la nourriture conforme à une religion. Je suppose qu'il peut y avoir de la nourriture conforme à une religion, mais que ce ne soit pas exclusivement, exactement.
Le diable sera dans l'application. Là, la loi, elle est là, mais c'est dans les règlements, comme on dit, comment ça sera appliqué. Par exemple, parlons des prières de rue. D'abord, c'était très particulier de vous entendre avec Alain Gravel en fin de semaine. Alain Gravel de Radio-Canada qui semblait presque nier le fait qu'il y ait des prières de rue. Là, je ne sais pas dans quelle ville il vit. Pourtant, il vit à Montréal, supposément. Mais les prières de rue, il y en a à toutes les fins de semaine. Puis c'est pas juste lors de manifestations pro-Hamas ou pro-Palestine. Appelez ça comme vous voulez. J'ai l'impression que, juste pour s'arrêter là, votre impression par rapport à ça, quand vous parlez à des jeunes médias qui semblent nier encore la réalité. Votre impression, c'est quoi?
Ben, je pense que ça se passe. il y a certaines personnes qui nous disent que c'est purement anecdotique, il y a un cas très limité, un nombre de cas très limité, puis d'autres disent, ben justement, avant que ça s'étende, il faut agir, puis il y a peut-être un nombre de cas limité, mais est-ce que nécessairement ils ont tous été médiatisés, peut-être que c'est juste la pointe de l'iceberg, ce qu'on a vu, donc je pense que tout le monde prend acte des faits, des prières de rue qu'on a vus l'été dernier, mais certains vont dire que c'est seulement anecdotique, d'autres vont dire que non, au contraire, c'est probablement plus large que ça, ou du
vous,
moins
vous
que
dites
ça,
quoi?
Ça. Ben nous, on dit que c'est ça, que ça vaut la peine de légiférer là-dessus, mais on prônait pas une interdiction mur à mur, comme certains proposaient justement dans les derniers mois.
Vous donnez ça aux villes.
Exactement. Nous, on rappelait dans le rapport que c'est d'abord une responsabilité municipale, parce que le centre-ville de Montréal puis le cœur du village en Mauricie, c'est pas la même chose. Donc il faut faire preuve de nuance, d'adaptation aux circonstances locales. Et si le projet de loi va dans ce sens-là en disant que ça doit être sous autorisation municipale, que ça doit être permis. Puis là, il y a des critères dans la loi. Hein. La pratique religieuse collective là, dans l'espace public, un parc ou une rue, ben ça doit pas compromettre la sécurité, ça doit être de courte durée, ça doit être accessible à tous, ça doit pas entraver indûment l'accès. Donc, ça me semble aller dans le sens du rapport. Puis trouver un bon compromis entre, oui, il faut permettre une certaine pratique religieuse, mais il faut s'assurer que ça nuise pas à d'autres fins pour lesquelles peuvent être utilisés là, un parc ou une rue.
Vous avez vraiment l'approche légaliste. Donc, selon ce que vous me décrivez, cette loi-là prête difficilement flanc à un challenge en cours, bien que des minorités, entre autres des minorités musulmanes, puissent la challenger, entre guillemets, là. Mais si vous protégez la liberté de culte dans un milieu donné, dans un parc, c'est ça, au fond, qu'exprime la religion catholique. C'est un peu particulier de voir des évêques cette semaine défendre les islamistes, là. C'est un peu spécial, mais c'est ça qu'on a vu cette semaine. Donc, les religions semblent s'unir contre ce projet de loi-là. C'est un peu particulier, Maître Rousseau?
Oui, effectivement, les religions, les groupes religieux jugent avoir des intérêts communs là-dessus, donc se concertent. Mais ensuite,
des fois, allez voir les villes, c'est ça que vous dites?
Oui, ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est que on pense que les villes ont un rôle à jouer. Maintenant, moi, j'ai l'impression que le risque de ça, c'est évidemment que ce soit très libéral, que les villes donnent des autorisations de manière très, très large. Mais là, il y a des sites trop larges, puis ça respecte pas les critères de la loi. Des citoyens pourront contester les autorisations qui seront octroyées par les villes si c'est vraiment trop général puis que c'est pas dans le respect des critères de la loi. Mais là, au moins, il y a des critères clairs dans la loi, donc ce sera plus facile de se plaindre auprès des villes, voire de les poursuivre. Et de l'autre côté, les groupes religieux, au contraire, si les villes sont trop restrictives dans l'autorisation, pourront aussi essayer de prendre des recours. Évidemment, on souhaite que tout le monde se parle puis que ça se fasse sans se retrouver devant les tribunaux. Mais disons qu'avoir des critères clairs comme ça dans la loi, ça l'aide quand même, là.
Mais le diable est dans l'application pareil. Vous êtes un avocat, vous avez écrit ça, et la loi a du sens. Mais maudite merde, moi, ça me tente pas d'être police puis de gérer ça. La caméra, les caméras, les téléphones qui te filment, t'es pogné pour prendre des musulmans qui prient. Tu te ramasses sur YouTube, ça fait le tour du monde. C'est un méchant bordel, ce qui s'en vient, là. Comment vous évaluez ça? C'est une bombe à retardement, ben là, quasiment, cette affaire-là?
Ben, c'est en fait, un des éléments, c'était que l'été dernier, des fois, on ne savait pas est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal. Il y avait des questions qui se posaient, puis les règles peuvent varier d'un arrondissement à l'autre, à oui. Montréal, entre autres, et tout. Donc, c'était assez compliqué. Puis là, évidemment, si les policiers agissent dans le cadre de la loi, qu'ils interviennent parce que c'est clairement illégal, je pense que l'opinion publique va comprendre. Puis va
voir. Il y a l'opinion publique, mais il y a la perception, puis vous savez, il y a le jeu de manipulation des islamistes qui vont se dépeindre comme étant des victimes, des perpétuelles victimes, qui vont pleurer. La madame qui va se faire sortir du CPE, elle aimait les enfants, elle aimait donc bien les enfants. Il va y avoir un match de relations publiques, vous le savez très bien, Maître Rousseau.
Oui, absolument. Puis dans le cas des prières de rue, ben là, ce qui est intéressant, oui, c'est que comme il y a des critères, ben là, je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour des groupes de telle religion de dire, ben, il y a juste nous qui sommes ciblés. Non, il y a des critères clairs, puis si vous êtes le seul groupe religieux qui ne les respectez pas, ces critères-là, ben, vous allez être le seul groupe religieux à ne pas avoir les autorisations. Donc là, je pense que ça va aider, parce que c'est les mêmes règles pour tous. Il faut que ce soit de courte durée, que ça respecte la sécurité, c'est que ça. Ce soit accessible à tous. Ben, ça va être appliqué pour toutes les religions. Fait que je pense que la rhétorique de dire on est stigmatisé, on est visé, ça va être plus difficile à partir du moment où il y a des règles claires applicables à tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Puis pour ce qui est ben des CPE, interdiction du port de signes religieux, ben encore là, je pense que ça a été prouvé que toute cette rhétorique-là sur on va perdre des employés qui sont bonnes, qui aiment les enfants, ça avait été la rhétorique en 2019 contre l'interdiction du port de signes religieux dans les écoles. Puis nous, dans notre rapport, on a documenté qu'il n'y a pas eu de problème dans l'application. Ça se passe bien, il y a des droits acquis, c'est un petit peu compliqué, mais globalement, l'application se passe bien. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi ce serait très différent dans les CPE par rapport aux écoles primaires où ça a bien été. Fait que là-dessus, moi, je suis confiant, même s'il va y avoir évidemment de la rhétorique, évidemment des débats publics, comme il y a eu au moment de la loi 21 en 2019, mais globalement, ça va bien aller sur le terrain, puis au bout de quelques années, ça va mener un certain apaisement, là, comme depuis 2019.
Le projet touche aussi les écoles privées religieuses. Hier, j'ai eu plein de courriels des gens de la communauté juive qui n'aiment pas la loi parce que le gouvernement vient se mêler des écoles privées religieuses. Vous pensez quoi de tout ça? Qu'est-ce que vous énonciez à l'origine dans votre rapport?
Ben nous, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est qu'évidemment, la séparation de l'État et des religions, là, qui est un des principes de la laïcité, forcément, c'est notamment une séparation financière fiscale. Donc, c'est forcément, là, ça veut dire ça quand on regarde ailleurs dans le monde et tout. Donc, à partir de là, effectivement, c'est quand même un peu problématique là, que ce financement public des écoles privées religieuses. Maintenant, est-ce que ça veut... L'idée, c'est pas nécessairement de dire que les écoles pour préserver les écoles privées pour préserver leur financement public doivent devenir 100% laïques comme des écoles publiques, mais il y a quand même peut-être certaines pratiques qui sont un peu trop intenses, comme la ségrégation, comme dire on va sélectionner des élèves en fonction de leur religion ou les membres du personnel, ça de dire ben là vous allez arrêter.
On n'enseigne pas les sciences aux filles. On a déjà vu ça là.
Ouais, ben ça c'est l'autre chose. Ça, il y a tout un volet du projet de loi qui est sur les accommodements religieux où là on vient vraiment mettre des balises beaucoup plus claires. Ça va exactement dans le sens du rapport. Là, ce qu'on dit, dès que la contrainte est plus que minimale pour l'employeur, pour l'organisme, on peut refuser la demande d'accommodement religieux quand il est question de ségrégation sexuelle. On doit même refuser l'accommodement religieux. Donc là-dessus, sur les accommodements, c'est peut-être la partie la plus forte du projet de loi. On en parle moins parce que c'est peut-être technique, c'est moins, ça flash moins que les interdictions de port de signes religieux, mais ça, là-dessus, il y a des choses très intéressantes dans le projet de loi.
Vous êtes constitutionnaliste. Est-ce que cette loi-là peut survivre sans clause nonobstant?
Oui, parce que dans l'arrêt Mouvement laïque contre Saguenay de la Cour suprême, on vient établir qu'un représentant de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, a un devoir de neutralité religieuse. Donc, le maire de Saguenay, quand il voulait faire sa prière au conseil de ville, la Cour suprême lui interdit. Donc là, c'est la même logique. Hein. Quand on est un enseignant dans une école ou une institutrice ou plutôt une éducatrice dans un CPE, ben ça peut tout à fait être assimilé à une représentante de l'État, vu que le CPE, bon, techniquement privé, mais vraiment dans le giron de l'État. Ben à ce moment-là, on peut justifier que cette personne-là a un devoir de neutralité religieuse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au port de signes religieux? Ben c'est là où la loi a la place et la légitimité pour venir préciser qui peut porter un signe ou pas en application du devoir de neutralité religieuse qui découle des chartes des droits. Donc ça, il y a un argument fort à faire valoir. Mais ensuite, évidemment, il y a d'autres dispositions qui peuvent être contestées. Puis là, est-ce que ça peut être justifié ou pas? Si on n'avait pas de disposition de souveraineté parlementaire, là, de dérogation, il y aurait plus de contestations, il y aurait des frais qui seraient engloutis là-dedans. Ultimement, c'est des juges nommés par le fédéral qui décideraient. Donc, pour des raisons politiques, le gouvernement décide de protéger sa loi. Mais effectivement, s'il n'y avait pas ces dispositions-là, il y aurait des bons arguments à faire valoir là, pour en faveur de la validité de la loi.
Est-ce que l'entrisme religieux islamique est dangereux pour le Québec?
Ben c'est sûr que l'entrisme en général, hein, des influences, des influences religieuses dans des lieux qui n'ont pas lieu d'être, c'est sûr que c'est préoccupant. Il y a eu le cas de l'école Bedford, extrêmement préoccupant. Puis on voit que c'est pas fini. Puis d'autre côté, nous on avait regardé justement les CPE pour voir s'il y avait des cas semblables. On n'a pas trouvé de cas aussi graves que Bedford, mais on a trouvé des cas où il y avait des influences religieuses dans les CPE, donc auprès des enfants. Fait que oui, c'est sûr
comme...
que c'est préoccupant.
À part la halal, là, c'était quoi? C'est la prière, l'heure de la prière, une petite vidéo avec la Mecque, c'était quoi?
Ben, il y avait des cas où plusieurs des éducatrices portaient des signes religieux, donc il y avait comme une ambiance, là, qu'il y avait comme clairement une majorité qui pratique la même religion, puis là, ben, ça l'imprègne un peu l'ambiance. Il y avait des cas qui nous ont été rapportés qui pouvaient effectivement avoir des formations religieuses pour les employés. Puis là, c'était comme dans les fêtes obligatoires. Donc, il y a eu certains cas comme ça, préoccupants, qui nous ont été rapportés. Mais sinon, c'est bon, la nourriture 100% halal, ça, c'est, on en a vu beaucoup. Des cas, c'est ça, beaucoup de cas de parents qui exigent que leur enfant ait la nourriture halal. Puis s'il n'y en a pas, ben là, c'est le drame. Puis le parent fait de l'intimidation. Donc ça, on a vu des cas comme ça.
Le Conseil national des musulmans canadiens a émis un document en disant, ouais, vous avez le droit, là, continuez d'organiser des prières sur les campus, vous avez le droit de porter le niqab à l'école. Vous le savez qu'il y a des lobbies qui poussent fort, là?
Oui, absolument, mais c'est ça. Là, ces gens-là vont se faire entendre en commission parlementaire. On a plusieurs mois de débat sur ce projet de loi devant nous. Fait que ces gens-là se fassent entendre. Est-ce qu'il y a des exceptions à ajouter? Est-ce qu'il y a des modalités à préciser? Sans doute que oui. Puis je pense que ça va être important d'écouter ces gens-là tout en restant ferme sur les principes. Je pense que dans l'application, il peut y avoir de la souplesse.
Si on avait attendu 10 ans avant de déposer la loi, est-ce qu'il aurait été trop tard?
Ben c'est possible. En tout cas, c'est sûr que pour ce qui est des CPE, nous, on a constaté là, que c'était préoccupant, les influences religieuses là, dans les CPE. Hey, c'est sûr qu'il était temps d'appliquer les principes de la laïcité.
Vous avez vu des images de Charkaoui qui bourre le crâne de kids avec le Coran, des petites filles avec le voile intégral, les petites filles de 6-7 ans, assises en arrière des petits gars. Les petits gars sont toujours en avant. On fait quoi avec ça?
Ben c'est ça. Je pense que c'est là où, quand je dis qu'il faut être ferme sur les principes, je pense que ça, c'est un bon exemple. Puis les CPE sont au cœur. Il y a eu... En matière de laïcité, c'est toujours l'éducation qui est la composante la plus importante. Donc, il y a eu la loi 94 pour renforcer laïcité, école privée, école secondaire. Là, on ajoute les CPE, on ajoute cégep université, notamment au niveau du visage découvert. Ça nous semble super important parce qu'on a beaucoup de cas qu'on
a. Mais il n'y a rien qui va empêcher Charkaoui d'un local de bourrer le crâne des jeunes, non?
Oui, effectivement, quand ça se passe complètement dans la sphère privée, là, ça échappe au principe de laïcité de l'État. Ben, à ce moment-là, ça devient vraiment une question de liberté de conscience. Donc, il faut s'assurer que les parents, par exemple, qui envoient leur enfant se faire endoctriner, est-ce qu'il y a un peu de surveillance de la part de la DPJ ou autre? Est-ce que l'État prend les mesures pour lutter contre les dérives sectaires? Ça, c'est un autre volet qu'il faudrait peut-être documenter davantage, effectivement.
Et vous souhaiteriez, dernière question, qu'on le documente davantage?
Oui, effectivement, parce que influence religieuse, ça pourrait toucher les dérives sectaires. Puis nous, on a eu un mandat qui durait à peine 6 mois, donc on a eu finalement assez peu de temps. On a fait beaucoup de travail, puis je pense qu'on a fait beaucoup avancer les connaissances, mais effectivement, le travail en termes de recherche pourrait se poursuivre, notamment au sujet des dérives sectaires.
Très bon. Merci beaucoup. Merci de votre contribution. Bye-bye.